Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Studio Zef en direct de Romainland au Parc des Mets pour l'événement Courir pour Dany, France Alzheimer 41, toujours en compagnie de Christophe. Ça va toujours ? Ouais, bien remis de ta petite course là, du début d'après-midi. C'est ça.
Il y a des failles dans l'organisation, je vais revoir Julien un petit peu après.
Julien, que nous avons croisé tout à l'heure, qui paraît très en forme pour l'instant.
Ah bah lui, il a la caisse.
Oui, c'est ça. Avec ses acolytes aussi, il avait l'air très en forme. Il y a une bonne ambiance. Donc, on rappelle, si vous voulez toujours nous rejoindre, eh bien, c'est toujours possible. L'activité dure jusqu'au bout de la nuit.
C'est un véritable village.
Mais vraiment, on est très bien accueillis, vraiment. On est en compagnie, on a de nouveau des invités près de nous. On est en compagnie d'Angélique Rousseau. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Et de Magali Péchard. Bonjour Magali. Ça va, vous êtes bien installée?
Très bien.
Très bien.
Vous profitez de votre après-midi?
Oui,
tout à fait.
Alors, Angélique Rousseau, vous êtes aide-soignante à l'accueil de jour des Myosotis. Vous allez nous présenter l'organisme tout à l'heure. Et Magali Péchard, vous êtes infirmière coordinatrice des équipes mobiles Alzheimer, donc qui dépend de l'organisme de l'ADMR.
De l'ADMR, hein,
c'est ça?
Oui,
vous allez,
tout à fait.
On peut commencer par vous. Allons-y.
Si vous voulez. Alors, l'ADMR est connue sur le territoire du département pour avoir surtout service d'aide à domicile qui rayonne un petit peu partout, mais il y a aussi une branche santé au sein de l'ADMR qui a donc des services de soins infirmiers à domicile, les SIAD, qui interviennent auprès des personnes qui ont des difficultés pour réaliser leur toilette et qui donc ont besoin d'aide de toilettes médicalisées. Et puis il y a les petits derniers qui sont arrivés, qui sont les équipes mobiles Alzheimer, qui ont été créées grâce au plan Alzheimer 2008-2012 et donc qui ont été créées à partir de 2011, 2012, 2013. Et c'est l'ADMR qui porte juridiquement et qui permet de déployer toutes les équipes dans le département. Donc il y a trois équipes, une basée au nord pour le département dans son arrondissement du nord, une à Blois pour le département au centre et une au sud à Romorantin. Voilà, moi je gère sur Blois et sur Romorantin.
Alors concrètement, comment ça se passe? Vos actions?
Comment ça se passe? Alors d'abord, une équipe mobile Alzheimer, elle a la particularité d'être mobile, c'est-à-dire qu'elle se déplace. Et donc elle vient rencontrer les gens vers leur domicile. Alors quand on parle d'une équipe, c'est que je ne suis pas toute seule. Et donc dans chaque équipe, il y a donc l'infirmière qui gère et qui organise un petit peu l'équipe, qui fait certaines visites au domicile. Mais il y a surtout une ergothérapeute qui est présente à 100% du temps et qui est le poste de rééducateur, qui est la cheville ouvrière et de la réadaptation, qui va donc s'adresser à la personne atteinte de troubles cognitifs. Et donc il y a aussi deux assistantes de soins en gérontologie dont la base métier est soit d'être aide-soignante, soit aide médico-psychologique, et qui ont fait une formation complémentaire en gérontologie pour pouvoir s'occuper et s'adresser des personnes atteintes de troubles cognitifs.
Donc une équipe pluridisciplinaire. Quand vous dites que l'ergothérapeute est la cheville ouvrière, ça veut dire qu'elle a une fonction et une intervention
particulière.
Particulière, mais en quoi est-ce particulière?
Alors en quoi? Parce que c'est elle qui a la charge de réaliser les évaluations des personnes que nous rencontrons dans leur domicile pour comprendre au stade de la maladie où elles en sont, de comprendre les difficultés que fait peser la maladie sur leurs activités de vie quotidienne. Et donc au travers de certains tests et de bilans très particuliers qui peut évaluer pour toutes les activités de vie quotidienne. Alors on parle de se lever, faire sa toilette, faire la cuisine, aller faire des courses, vraiment la vie quotidienne. Et donc tout ça est décliné sous forme d'évaluation, expérimentée par des mises en situation. Et au regard de ce qui va être priorisé par la personne atteinte de troubles cognitifs ou ses aidants, son entourage, quelques axes de travail vont être développés pour accompagner et permettre de garder le plus possible l'autonomie de la personne dans sa vie quotidienne.
Alors, Est-ce que vous avez des contacts, peut-être, enfin, avec les aidants, justement, on n'a pas beaucoup parlé des aidants jusqu'à maintenant, voilà. Beaucoup. Mais voilà, comment ça se passe? Parce que autant les bénévoles de France Alzheimer 41, eh bien, ils sont en prise directe, je dirais, en permanence dans leurs activités avec les aidants. Autant vous, comment ça se passe?
Parce comment que, ça se passe? Voilà. Alors, je vais peut-être apporter une précision supplémentaire, c'est que nous n'intervenons que parce qu'il y a une prescription médicale et que la personne a suivi un parcours de diagnostic par un médecin, soit de consultation spécialisée comme la consultation mémoire de certains des hôpitaux, Blois, Vendôme, Romorantin en fonction des présences médicales, ou neurologue, hein, puisque c'est aussi médecin spécialisé, et que ça dépend bien de cette prescription médicale. Alors le contact avec les aidants, alors la plupart du temps c'est le conjoint direct, les enfants quand ils sont présents dans l'entourage, mais quelquefois aussi des personnes toutes seules, ça nous arrive, et donc les aidants sont la partie prenante effectivement des échanges, puisque la plupart du temps il faut un accompagnement pour appuyer, relayer, solliciter sur les actions qui vont être amenées à être déployées. Si on n'a pas quelqu'un, ou les aides à domicile, beaucoup, qui sont nos premiers relais quand il n'y a pas d'accompagnant familial en tant que tel, les aides à domicile qui passent aider pour quelquefois accomplir des gestes de toilette, refaire son lit, pour préparer un repas, quelquefois pour manger, ou accompagner sur des temps plaisants, hein, qui sont aussi, je faisais du Scrabble, j'aimais me promener, mais je me perds dans mon quartier, donc finalement je ne sors plus de ma maison. Donc, ou la famille, les aidants, alors la particularité des aidants, c'est qu'ils sont déjà à charge sur tout le quotidien à gérer pour eux-mêmes et comme pour leur aider à devoir accompagner, et que bien souvent, on ne peut pas leur en rajouter, et que c'est là où le travail d'ouverture avec les partenariats que sont les services d'aide à domicile ou les structures, dont mes collègues font partie du coup oui, à l'accueil de jour, sont hyper importants, parce que tout seul, nous, ça n'est souvent pas suffisant. On sert un petit peu de déblayage, de débroussaillage et d'orienteur vers... D'ailleurs, ça fait partie de nos missions, de trouver des relais, hein, pour que, à la suite de nos 15 séances qui seront faites au domicile, les efforts, la dynamique, l'énergie qui a été déployée ne retombent pas. Donc oui, on a besoin de ces relais pour permettre de poursuivre les efforts et de maintenir cette autonomie qui est capitale pour le maintien au sein du domicile, dans ce qu'on pourrait souhaiter de dire confort et qualité de vie à la maison, pour l'aidant comme pour l'aider. Et quand vous parliez des aidants, on a presque une mission d'alerte de santé publique, puisqu'on sait désormais statistiquement que 70% des aidants disparaissent avant la personne malade. Donc on a un rôle d'évaluation aussi de l'épuisement des aidants, de leur charge, de leur fardeau et de leurs conditions physiques, et donc de devoir faire les alertes nécessaires pour un petit peu les préserver, solliciter le répit, réalerter quelquefois les consultations médicales, et de dire attention, là on va vers une situation qui risque de virer vers l'urgence, puisque si l'aidant n'est plus là, généralement
70%, c'est un taux énorme,
c'est les impressionnant, et on les confronte tous les jours. Ça se réalise, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, les aidants renoncent à se faire soigner, retardent des interventions, sont debout du matin au soir, quand c'est pas en plus du soir au matin, quand les troubles peuvent aussi atteindre le nocturne, hein, et donc ils sont sur le pied de guerre sans arrêt.
D'où la situation d'épuisement constatée. Voilà. Ouais.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait.
On revient vers vous tout à l'heure. Tout à Merci fait. Beaucoup. Angélique, alors nous disions donc que vous êtes aide-soignante à l'accueil de jour Les Mieux Otis. Alors, vous pouvez nous présenter Les Mieux Otis?
Oui, donc Les Mieux Otis, c'est donc le centre d'accueil de jour Alzheimer qui dépend de l'hôpital de Blois. Donc nous accueillons les personnes du lundi au vendredi de 10h à 17h. Donc pour l'hôpital, nous dépendons du pôle 3, donc tout ce qui est autonomie, pardon. Et voilà, donc nous aidons, on est présente pour les aidants justement, pour ils amènent leurs patients la journée, ce qui leur permet d'avoir un temps de répit pour eux, rien que faire les courses, des choses toutes simples. Et puis nous, quand nous avons les personnes, nous leur faisons faire différentes activités.
Alors, quelles sont ces activités ?
Alors, nous, ça, c'est des choses qui partent vraiment des activités occupationnelles, comme simplement mettre la table correctement, passer le balai, voilà, après déjeuner, des choses assez traditionnelles, simples, mais qui sont oubliées pour souvent. Et jusqu'à des activités ludiques où voilà, on va faire, comme vous disiez, un Scrabble, essayer de se re-sociabiliser, être ensemble, faire des choses ensemble sous forme de jeux et d'activités. Et puis aussi des sorties extérieures également, faire un peu de motricité, parce que souvent les personnes à domicile ben, sont dans le fauteuil, on manque de marche, de pratique. Et là, nous, on sort, on va dans les magasins, au beau jour, on part, on a le pique-nique et on part faire les jardins de Chaumont, faire des sorties et côtoyer d'autres personnes, on fait des échanges.
Donc le matin, les patients sont amenés en général par la famille.
Oui, alors il y a la famille qui peut les amener leurs patients, enfin les aidants. Et sinon, nous faisons aussi un service de transport dans un rayon de 10 km autour de l'accueil de jour. Il y a aussi l'ADMR qui amène des personnes. Il y a des taxis, enfin voilà, il y a plein de services autour qui aident à la venue.
Et le soir, pareil.
Pareil, soit la famille, c'est également.
Et le week-end,
non, le week-end, c'est fermé. C'est fermé. Du lundi au vendredi, 10h-17h.
De semaine, de jour.
Tout à fait.
Il faut vous reposer aussi. Hein.
Un petit peu, j'avoue.
Vous avez peut-être un peu besoin, non ?
Un peu, j'avoue.
Et donc, il y a un turnover au niveau de la présence ?
Alors, on est quatre dans l'équipe. Présente continuellement, donc on a une infirmière coordinatrice et on est trois aides-soignantes. Après, nous avons un médecin coordinateur également qui est présent pour tout ce qui est entretien. Nous avons une psychologue aussi qui est présente aussi bien pour les patients que pour les familles qui ont besoin. Et puis, on a des secrétaires administratives et médicales.
Et pour les malades, vous pouvez les retrouver journellement
Alors, il y a des personnes qui viennent une journée par semaine, ouais. Et puis d'autres jusqu'à quatre fois dans la semaine.
D'accord. Et ça se traite de quelle façon, ça, j'imagine que...
Alors, les personnes nous contactent. Donc souvent, des fois, ils viennent d'EMA, ouais. Qui nous désorientent, de la consultation mémoire, du médecin traitant, etc. Et donc, ils nous contactent, ils nous rencontrent, on a un rendez-vous, ou également, on fait un petit questionnaire également de connaissances qui nous permet ensuite d'avoir des objectifs de prise en charge pour cette personne. Et puis voilà, il y a des petits documents à remplir assez simples administrativement. Et puis les personnes en général commencent la semaine suivante.
Et donc c'est vous qui décidez si la personne va venir cinq fois dans la semaine ou une fois dans la semaine
Alors au début, les personnes commencent par une fois. Ouais. Parce qu'il y a une appréhension, hein, c'est inconnu, vous voyez des personnes qui ne connaissent pas, c'est difficile. Et puis après, une fois qu'ils ont commencé, en général, ils aiment beaucoup, parce que ça fait un peu un club de jeux, d'échanges. Enfin voilà, ils se retrouvent des personnes, parce qu'en général, quand ils commencent, s'ils commencent le lundi, ils reviennent tous les lundis, on ne change pas de jour, c'est vraiment précis, il y a vraiment un projet pour la personne, un projet de vie et d'accompagnement. Et donc souvent on augmente, mais bon, il y a un petit tarif journalier donc de dépendance suivant le GIR. Donc ça, c'est les grilles spécifiques de dépendance. Mais ça, c'est toujours financièrement après s'ils peuvent augmenter ou pas. Quoi.
En fait, c'est souvent l'argent qui décide.
Bah oui, c'est une nerf de la guerre, comme on dit. Mais oui, c'est ça, oui, tout à fait. Après, il y a des aides qui peuvent être données par l'APA.
L'APA, c'est quoi? Vous parlez en cycle, on ne va pas comprendre.
Alors, l'APA, je vais prendre le relais. L'APA, c'est l'aide personnalisée à l'autonomie. C'est un dossier qui se gère au niveau du conseil départemental, qui est fait pour aider la personne au sein de son domicile quand un degré de dépendance est diagnostiqué et évalué par les travailleurs sociaux du conseil départemental. Ma collègue parlait de GIR, et tout à l'heure, c'est ces grilles d'évaluation qui nous servent. Et donc, les personnes incluses entre le 1 et le 4 de cette grille peuvent prétendre à avoir un certain nombre d'heures aidées financièrement pour répondre à leurs besoins, en sachant qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment l'aide à la personne qui soit incluse dans leurs besoins. Hein, quelqu'un qui n'a besoin que de l'aide pour réaliser du ménage, par exemple, et pas forcément, simplement qui peine pour faire ses carreaux, ne rentre pas forcément dans cette grille. Par contre, la personne qui a besoin d'être aidée pour une partie d'accompagnement aux courses, pour remplir ses papiers administratifs, pour peut-être une fois de temps en temps être aidée pour être sécurisée, pour prendre une douche pendant que quelqu'un fait le ménage à côté. Voilà, c'est l'aide à la personne. Et donc, le conseil départemental évalue toute la situation grâce au passage et aux entretiens des travailleurs sociaux. Et donc, en fonction des revenus de la personne. Le tarif horaire, il y a une enveloppe financière, si vous voulez, qui est attribuée avec un quota d'heures en fonction de chaque niveau de grille, qui permet d'intervenir sur un très grand éventail d'aides, que ce soit de l'accueil de jour, le portage de repas, la mise en place de la téléassistance, l'hébergement temporaire, voilà, les frais de pédicure, les frais pour les protections en cas de besoin d'incontinence. Hein. Donc c'est vraiment un éventail très large, et donc les sommes attribuées vont permettre à la personne de financer et de pouvoir continuer dans son domicile, de bénéficier des aides dont elle a besoin pour aider sa vie quotidienne. Alors, comme s'il y a une grosse, une enveloppe qui peut vraiment être élargie en éventail, ben, une partie qui est pour les aides à domicile, une partie pour l'accueil de jour, une partie pour le portage des repas, il y a des choix à faire. Et donc, du coup, effectivement, la contrainte financière fait que la personne, même si elle a quelquefois envie, ne peut pas forcément aller vers plus.
Mais a priori, c'est vrai que bon, c'est toujours pénible de parler chiffres, mais en même temps, a priori, d'après ce que vous dites, il n'y aurait pas de discrimination, je dirais, à cause du niveau social de la personne et de la prise en charge. Mais en même temps, il y a quand même, c'est un parcours, un peu un parcours du combattant, non, au niveau administratif, pour remplir tous les dossiers, pour accéder à la demande, pour avoir une réponse.
Je crois qu'on peut dire que tous nos services qui tournent et qui gravitent autour de la personne âgée, et encore plus quand il y a les troubles maladie d'Alzheimer et apparentés, on porte dans les services différentes casquettes. On a chacun nos professions, mais alors on passe aussi à celui de travailleur social, à celui de rapporteur téléphonique, de lien avec les partenaires. Et donc là, effectivement, nos collègues de Vivre Autonome 41 sont pas présentes autour du micro.
Qui seront là demain,
sont d'un très grand secours. Puisqu'elles sont sur la plateforme de renseignement général pour tout ce qui est de cet ordre-là au point de vue du contact et du renseignement, et qui est aussi bien de l'ordre administratif pour des personnes qui sont pas forcément malades, qui sont simplement des personnes âgées et qui ont besoin de se démêler du labyrinthe dans lequel elles sont, et qu'on peut pas parler de labyrinthe quand même en ce moment, et qui sont là pour les orienter, pour les aider, les rencontrer quelquefois en rendez-vous aussi à leur domicile, et qui sont pour nous des aides précieuses, parce que c'est pas notre cœur de métier, et nos heures d'intervention auprès des personnes sont pas faites pour ça. Et donc chacun un petit peu à recadrer vers les orientations et de trouver les personnes les plus compétentes dans chacun des domaines, évidemment. Mais on a malgré tout beaucoup de choses à faire, parce que nous arrivons quelquefois en premier dans certaines situations qui frisent les catastrophes, on va pouvoir le dire comme ça. Et on a tout à faire, tout à mettre en place tout de suite et toujours forcément de façon urgente. Ouais. Et dans ces cas-là, l'urgence en administratif, ça c'est pas compatible.
Non. Ça, voilà. Même quand on n'est pas malade, on s'en rend compte.
Hein. Alors, en sachant que tout ça est quand même rondement mené par le conseil départemental, qui fait tout ce qu'il peut, mais nous sommes sur un département avec un gros taux de population. Toutes nos moyennes sont au-dessus des moyennes nationales.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire que notre département est un département de population âgée. Oui. Voilà.
D'accord.
Moyennes nationales tournent pour certains à 17-19% de population au-dessus de 60 ans. Nous sommes entre 33 et 36%. Donc forcément, la moyenne régionale est plus haute, mais la moyenne du Loir-et-Cher est vraiment encore au-dessus de la moyenne régionale. Donc forcément, ça embouteille.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est une grosse problématique. Et le conseil départemental a fait beaucoup. Madame Gibotteau, qui est vice-présidente du conseil départemental, a beaucoup œuvré auparavant déjà avec Monsieur Leroy, qui a mis en place des politiques en faveur et développées au niveau du maintien à domicile, qui est relayée et qui est vraiment une dynamique dans le Loir-et-Cher pour répondre à cette problématique de population vraiment particulière et qui continue à affecter effectivement l'organisation et les dépenses publiques mises à disposition aussi par le conseil départemental. Donc c'est tout un grosse mécanique, rouage.
C'est une grosse usine
et qui affecte aussi du coup les heures aussi à attribuer par les services d'aide à domicile aidés, etc. Enfin, c'est vraiment toute la dynamique autour de la population âgée qui est sollicitée dans ce sens-là.
Et on peut dire que cette grosse usine fonctionne quand même pas si mal que ça.
Ça fonctionne pas si mal que ça, tout à fait. Tout à fait.
Et, ça doit dépendre des départements, peut-être, non ?
Alors, ça peut dépendre des politiques des départements, voilà. Confrontés ou pas à cette problématique, et avec des priorités, en fait, qui seraient montées dans chaque secteur, mais il faut bien faire des choix. Ouais. Et tous nos décideurs sont en ce moment forcément confrontés à des choix, et les choix qui sont faits pour le Loir-et-Cher ont permis quand même de développer des politiques départementales tout à fait en faveur et bénéfiques auprès de la population âgée.
Je voulais, avant de faire une pause, petite pause musicale, je voulais quand même vous demander à toutes les deux votre sentiment et puis comment vous avez été sollicité pour cet événement de ce week-end, comment ça s'est passé. Voilà, apparemment vous êtes plutôt contente d'être là.
Oui,
on vous a pas mis le couteau sous la gorge.
Non, heureusement. Non, bien nous, à l'accueil de jour, nous avons reçu Dany.
Oui,
donc,
d'accord.
Voilà,
on rappelle le papa de
Julien. Le papa de Julien, voilà, tout à fait.
Qui est en train de courir.
Qui court toujours.
C'est Julien qui court et pas Dany.
Contrairement à toi, Christophe.
Voilà.
Alors, moi, je suis au micro, je peux pas tout faire.
Nous avons accueilli Dany, voilà, à l'accueil de jour. Et Julien a donc pensé à nous, je pense, naturellement. Et donc, on était très ravis de participer à cet événement.
Ah oui.
Voilà. Et nous avons rencontré même Dany avant notre collègue de l'accueil de jour, puisque nous sommes intervenus sur une prescription médicale auprès de Dany en son domicile encore à l'époque. Oui. Avec toutes les difficultés qui étaient rencontrées. Julien n'était pas encore remonté de Toulon à ce moment-là. Donc,
c'est vrai qu'il était dans le sud.
Il était encore dans le sud, donc on a travaillé avec lui à distance.
Et donc Dany était seul à la maison.
Voilà, Dany était seul à la maison, avec toutes les difficultés pour ne pas ou accepter les services d'aide à domicile qui déjà tentaient de pallier les difficultés qu'il avait. Et donc, dès que Julien a pu être disponible sur place, on l'a rencontré, on a essayé de faire ce qu'on a pu, mais la situation, effectivement, a évolué vers un autre chemin. Et donc, quand Dany est rentré en institution, Julien a eu besoin d'exprimer tout ce qu'il avait cheminé dans ce parcours difficile, en voulant, avait-il dit à l'époque, déjà faire quelque chose pour dire il faut pas rester seul. Effectivement, on avait encadré comme on avait pu, beaucoup encouragé, appuyé, épaulé. Et donc, voilà... On avait donné des contacts et fait des relais auprès de certains de d'autres associations qui sont aussi là, effectivement. Oui. Donc voilà, entre-temps, Dany était passé effectivement en relais chez nos collègues de l'accueil de jour des myosotis. Oui. Donc voilà, toute la chaîne qui d'habitude se met un petit peu en place, mais là, ça a été encore une plus grande chaîne. Et donc forcément, on est revenu pour Dany et pour Julien.
Est-ce que vous serez là demain ?
Non, pas seulement, non,
pas possible.
Voilà. Ça vous a pas donné envie de faire un petit tour de terrain, là, par solidarité ? Je vois qu'il y a des tennis, effectivement.
Ouais. Mais on ne peut pas être sur le stand et puis aller courir.
Mais on peut faire une petite récré.
Bonne réponse. Bravo.
N'est-ce pas, Véronique ?
Moi, je ne peux pas boire une bière et... Pardon. Je ne peux pas... Je peux pas exercer mon métier de...
En plus, c'est un métier maintenant.
On est bénévole aussi.
Bah oui, bien sûr qu'on est bénévole.
Bon, allez, ça suffit. On va faire une petite pause musicale. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à vous.
Et on va écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve tout à l'heure pour un autre plateau.